Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
La révolution de février 1917 en Russie.
Le désordre dans l'administration en général et surtout dans les ravitaillements ont provoqué des mécontentements dans la population laborieuse. Vers le début de février, la situation devenait inquiétante. Et vers le 20, si je me rappelle bien, cela n'allait pas du tout.
Vadim Andrusov, qu'on retrouvera dans cette émission. Et 1917 devint révolution. C'est le titre d'une exposition qui se prépare aux Invalides. Oui, mais elle ne va ouvrir qu'en octobre. Or, le déclenchement de la révolution russe, le grand mouvement spontané, c'est février. L'abdication du tsar, le gouvernement provisoire, la naissance de centaines de soviets, les cahiers de doléances ou leur équivalent qui remontent de tout le pays, c'est mars. L'insurrection que les bolcheviks menèrent plus tard en octobre et avec un art consommé a recouvert la mémoire du moment de départ. Il faut bien y revenir, il faut même remonter plus haut à une première révolution en 1905 où naquit l'idée de soviet populaire et qui fut noyée dans le sang par le tsar. L'histoire, selon les communistes, a représenté ces mouvements comme s'emboîtant les uns dans les autres, ainsi que les étages d'une fusée. Objectif, les lendemains qui chantent. L'histoire, selon les libéraux, explique à l'inverse que la Russie avait déjà décollé économiquement et politiquement avant la Révolution. Il serait vain de vouloir chercher à rapprocher les deux points de vue. Ce que personne, en revanche, ne nie, c'est le caractère déterminant de la Grande Guerre. Dans un régime tsariste déjà incertain de lui-même, elle a provoqué des failles ouvertes. Entre 1914 et février 1917, elle a enrôlé 14 millions d'hommes et elle en a déjà mis hors de combat 5 millions. L'officier qu'on entendait en exergue de cette émission et qui appartenait pourtant à la garde impériale le dit clairement, ça n'allait plus du tout.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Nicolas Werth, bonjour.
Bonjour.
On ne pouvait que vous inviter en cette période anniversaire pour vos travaux accumulés sur l'histoire de la Russie, pour ce que sais-je, nouvelle formule aux presses universitaires de France intitulée « Les révolutions russes », dont même le Figaro Histoire écrit « Comment dire si bien en si peu de mots ?» Le Figaro Histoire fait un numéro spécial qui s'intitule « La révolution russe ». Le magazine L'Histoire, auquel vous avez participé, fait un numéro spécial qui s'intitule « Les révolutions russes ».
Oui, et j'ai volontairement intitulé ce petit livre « Les révolutions » parce que, évidemment, ce qui frappe, comme vous l'avez déjà dit, c'est que l'une, octobre, a oblitéré l'autre ou les autres, parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement février et octobre, mais c'est une multitude de révolutions sociales, nationales, de tous les segments de la société qui se mettent en marche, qui caractérisent cette année 1917.
Les révolutions de toutes les Russies. L'histoire libérale insiste sur le décollage économique qui a précédé la Grande Guerre. Peut-être, mais la guerre révèle les fragilités et de l'industrie et de la paysannerie.
Oui, tous les pays ont été terriblement impactés dans leur économie par cette guerre qui dure beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait, mais particulièrement la Russie, parce que la Russie était dans une phase justement de modernisation inachevée et elle était terriblement dépendante pour sa technologie. Prenons par exemple l'exemple des chemins de fer si importants dans ce si vaste pays, pour son matériel ferroviaire, pour ses locomotives, entre autres de l'industrie allemande. Donc, à partir du moment où il y a un blocus, y consent parler du blocus des Dardanelles, eh bien évidemment, les pièces détachées manquent et naturellement, cette question de la paralysie des transports va jouer un rôle absolument déterminant puisque paralysie des transports, ça veut dire que le combustible n'arrive pas dans les usines et notamment dans les grandes usines métallurgiques de Petrograd. Donc, les grandes usines vont faire des lock-out, vont fermer provisoirement. Et puis, évidemment, l'autre matière première qui n'arrive pas, c'est la farine. C'est donc les problèmes d'approvisionnement terribles par lesquels, au fond, cette révolution, dans l'immédiat, va arriver en février 17.
Alors, on va entendre tout au long de cette émission des témoignages qui ont été enregistrés à l'occasion du cinquantenaire, en 1967. Celui-ci est assez connu et il concerne un personnage étonnant, c'est Pierre Pascal. Alors Pierre Pascal va devenir plus tard bolchevique et ensuite, après avoir rompu avec le bolchevisme, le grand maître des études slaves à la Sorbonne. Ici, interrogé en 67 par Maurice Genevoix soi-même.
La guerre n'était pas bien menée. Les Français artilleurs reprochaient à la direction de l'artillerie dirigée par le grand-duc Serge de l'incompétence, des malversations et finalement de mauvais résultats. Les Français, qui étaient attachés à différents états-majors sur le front, étaient également assez critiques vis-à-vis des officiers russes qui ne se comportaient pas avec la troupe comme il aurait fallu, qui cherchaient à avoir une vie trop facile, trop égoïste. Donc là encore des critiques. Pour résumer, les membres de la mission, à des titres divers, étaient assez critiques envers l'ancien régime. Et puis, ils avaient des rapports, certains du moins, avec la société russe. Et là, ils entendaient dire « Oh, si le régime changeait, c'est alors que la guerre serait bien conduite, avec beaucoup plus d'énergie, on pourrait davantage compter sur la victoire. »
Incompétence, mais si on s'arrêtait sur le thème de la violence des rapports entre les officiers et les soldats, qui sont à 85% des paysans, là où en France, le soldat reste un citoyen, c'est un moujik.
Oui,
en Russie.
C'est une différence absolument fondamentale entre les armées, disons, des démocraties occidentales et l'armée russe. Cette incompréhension, cette haine sociale entre les officiers. C'est vrai que le corps des officiers a quand même pas mal changé pendant la guerre, vu les pertes. Au départ, c'était quasiment entièrement des gens venus de la noblesse terrienne. Ensuite, ça s'est démocratisé, mais néanmoins, il y a une opposition très forte et on ne peut pas dire qu'il y ait une armée citoyenne comme en France ou notamment.
23 février, des cartes de rationnement du pain viennent d'être annoncées à Petrograd. Pourquoi Petrograd, ce nom ?
Petrograd parce que dans le grand mouvement de germanophobie de l'été 14, on a débaptisé Saint-Pétersbourg en Petrograd pour russiser le nom de la capitale de l'Empire russe.
Le 23 février, c'est la Journée internationale des femmes. Il y a déjà un certain nombre d'empreintes qui sont bien imprimées dans le mouvement ouvrier et socialiste en Russie. Des milliers d'ouvrières du textile des faubourgs de Vyborg se mettent en grève pour protester contre le manque de pain et veulent rejoindre le centre, selon un parcours qui est déjà fixé par d'autres.
Bien sûr.
Souvenirs bien établis déjà.
Oui, évidemment, ceux de la première révolution, notamment de 1905, c'est-à-dire qu'il y a toute une géographie révolutionnaire. Bon, les quartiers, les ouvriers sont dans les quartiers nord, au-delà de la Neva, et traditionnellement, lorsqu'ils vont essayer de manifester, de défiler, il faut d'abord qu'ils traversent ces ponts, et puis ensuite, ils vont défiler dans les beaux quartiers, le long de la perspective Nevski. Et donc, il y a tout un parcours bien établi depuis le début du XXe siècle.
Le mouvement de grève va s'étendre, les attroupements se multiplier. Où est le tsar et comment réagit-il ?
Alors, le tsar, il est, depuis d'ailleurs l'automne 1915, il a pris le commandement en chef des armées et donc il est dans son QG de Mogilev, qui est quand même à bien 500 kilomètres de la capitale. Et il ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe, puisque le 25 février, fin de la journée, il ordonne au commandant militaire de la place de Petrograd, Habalov, de faire immédiatement cesser ces troubles, ces désordres.
Donc implicitement, il ordonne de tirer. Alors voici le témoignage de Vadim Androuzov, de nouveau, C'est un jeune sous-lieutenant à l'époque, de 3e régiment de la garde impériale. Et il dit, rétrospectivement, qu'il n'est pas formé, il a pris la relève d'officiers qui sont morts ou qui ont dû partir au front, le front qui requiert aussi les meilleurs soldats du régiment, et il a sous ses ordres souvent des réservistes, quand ce ne sont pas des éclopés. Ici, nous sommes sur la perspective Nevski que vous évoquiez tout à l'heure, le 25 février.
Il devait être à peu près de midi, pas près de midi, car nous, deux sous-lieutenants et deux aspirants, étions en train de déjeuner quand l'alerte a été donnée de la gare de Nikolaïevski, où nous, on nous avertissait qu'un imposant groupe de manifestants descendait le Nevski dans notre direction. Immédiatement, nous avons fait sortir une cinquantaine de soldats et qui, au commandement, se sont couchés à travers de la perspective, large à cet endroit de quelques 30 mètres. Il m'est impossible de dire combien de temps s'est passé avant que le Nevski s'est trouvé subitement vide. Le doux d'âne du pont Anichkov cachait les manifestants. Puis des banderoles et des pancartes, ensuite des têtes et enfin toute la masse noire s'est dressée comme un mur. Le clairon a sonné toutes les commandes, chargé, mettait en joue, mais pas le signal feu. Une énorme masse noire avançait. Je ne me souviens pas si elle chantait ou non. Le moment était tragique. Subitement, sans que le commandement feu soit donné, un coup claqua. Le soldat qui était derrière moi et à ma gauche avait appuyé sur la gâchette. J'ai sauté immédiatement par-dessus la ligne des soldats allongés sur la neige. Maintenant, tous les soldats tiraient dans la foule qui se trouvait à ce moment à la hauteur du square du théâtre Alexandrinka. Les soldats ayant perdu la tête tiraient toujours et nous, les quatre officiers, courions le long de la ligne en criant à tue-tête « Arrêtez, arrêtez !» Je me souviens d'avoir dégainé mon sabre et je tapais sur les derrière des soldats. Quand enfin la fusillade cessa, le Nevski était vide à part les cadavres qui jonchaient la perspective et le groupe noir et lycéif qui ne bougeait plus.
Vadim Androussov est devenu un artiste assez célèbre quand il témoigne pour la radio qui n'a peut-être pas diffusé ce témoignage 50 ans plus tard. Alors le lendemain, il explique qu'il a couché dans le dortoir des soldats, que ça sentait la chaussette russe, et que l'atmosphère était sombre, mais qu'il a réussi quand même à conduire son bataillon vers le palais d'hiver. Le régiment se tenait encore le lendemain. Puis on a mis les soldats dans le sous-sol du palais d'hiver, et puis des rumeurs ont couru, et le régiment s'est butiné. Sauf, dit Vadim Androussov, qui tient à son honneur, son bataillon. Le lendemain, il y a beaucoup de mutineries.
Oui, dans l'historiographie, on parle surtout de trois grands régiments qui se mutinent, le Pavlovski, le Preobrajensky. Et puis, en réalité, bon, c'était une situation extrêmement mouvante. Il ne faut jamais oublier quand même qu'il y avait 160 000 soldats dans cette garnison pour 30 000 places officiellement dans les casernes. C'était en effet soit des réservistes, soit des gens qui revenaient du front pour quelques mois pour récupérer. Mais évidemment, dans cette révolution que les bolcheviks ont déjà qualifiée, bon, en grande partie de prolétarienne, c'est évidemment les soldats qui ont fait la différence, les mutins qui ont fait la différence, parce que le 26 février, les manifestants ouvriers se rentraient chez eux, la tête basse, en disant « c'est terminé, voilà ». Et en fait, c'est évidemment cette mutinerie des soldats qui a assuré le triomphe de la Révolution, et d'ailleurs toute sa fragilité par la suite.
Et s'il n'y avait pas eu de soldats mutins qui se soit porté vers le palais de Tauride, où dans l'une des ailes se réunit un comité provisoire de la Douma. Alors si certains membres de la Douma, dont Kerensky, n'avaient pas ouvert les bras aux soldats, et si les soldats n'avaient pas protégé, d'une certaine manière, par leur présence, les parlementaires de la Douma, celle-ci n'aurait pas pu s'ériger comme un des pouvoirs possibles.
Oui, sans doute, mais donc il y a eu tout de suite, très rapidement, deux pouvoirs parallèle, parce que pour ces militants, disons, socialistes, et ils existaient de différents partis, les bolcheviks, les mencheviks, des socialistes révolutionnaires, pour eux, comment s'organiser? Il y a une référence, c'est 1905, c'est donc créer un soviet, et un soviet, c'est-à-dire une assemblée de délégués élus à la base. Donc, très rapidement, dès le 27 février, une fois que la mutinerie a gagné la ville, et d'ailleurs les mutins sont emparés de l'arsenal, donc la foule s'est saisie de dizaines de milliers d'armes, s'est armée, eh bien c'est ce petit groupe de militants socialistes, pas de premier plan, mais disons de second plan, puisque tous ceux du premier plan étaient en exil, demandent aux ouvriers, demande aux soldats de d'élire des délégués pour un soviet. Et donc, dès le lendemain, on va avoir deux instances. D'un
tout ça
côté,
au palais de Tauride.
Tout ça au palais de Tauride.
Dans une aile, il y a la Douma.
Voilà, dans une aile où il y a la Douma. Il va y avoir le comité provisoire de la Douma, essentiellement dirigé par des députés plutôt libéraux du parti cadet, du parti octobriste, pour restaurer l'ordre. Et de l'autre côté, on a le soviet, donc deux pouvoirs qui, d'emblée, s'installent.
Et un peu partout, dans un océan de drapeaux rouges, le rouge devient dominant, on entend un vieux chant issu pour les paroles de la révolution de 1905, qui a été noyée dans le sang par le tsar. Le tsar vampire te tire les boyaux, le tsar vampire boit le sang du peuple. On reconnaîtra une adaptation de la Marseillaise, mais c'est la Marseillaise des travailleurs. Царский чертог, царю нужны для войска солдаты, отдавайте ему сыновей, царю нужны отцы и палаты, отдавайте ему крови своей.
La marche de l'histoire sur France Inter.
Un peu plus loin, la même Marseillaise des travailleurs proclamera qu'ils périssent ces maudits scélérats, que luise l'aube d'une vie meilleure. Nous sommes donc à la charnière du mois de février, du mois de mars, dans notre calendrier 1917, en compagnie de Nicolas Werth, qui a publié récemment un « Que sais-je » sur les révolutions russes. Alors, le tsar vampire, celui qui était désigné comme tel déjà en 1905, où est-il? Que fait-il?
Alors, le tsar, voyant l'extension des désordres, enfin de loin, a décidé de rejoindre Tsarskoe Selo, sa résidence d'été près de Petrograd. Simplement, il va mettre plus d'une journée pour faire 150 kilomètres jusqu'à Pskov, où il arrive...
Parce que son train est sciemment ralenti.
Voilà, par les cheminots. Et là, le 1er mars, le coup de grâce est donné, au fond, à la dynastie des Romanov, mais par qui? Par l'état-major, à la surprise générale, qui comprend qu'il vaut mieux négocier avec le comité provisoire de la Douma, puisqu'il a l'assurance, cet état-major, que l'anarchie ne va pas gagner le pays.
En ces jours décisifs de l'existence de la Russie, nous avons, en notre conscience, considéré comme un devoir de faciliter à notre peuple une étroite union et l'organisation de toutes les forces de la nation pour remporter au plus tôt la victoire. Et en accord avec la Douma d'Empire, nous avons résolu de renoncer au trône de l'Empire de Russie et de déposer le pouvoir suprême. Ne voulant pas nous séparer de notre fils bien-aimé, nous transmettons notre succession à notre frère le grand-duc Michel Alexandrovitch et lui donnons notre bénédiction pour son avènement au trône de l'Empire de Russie.
Le tsarévitch, malade, hémophile, est incapable, évidemment, de prendre la relève, et le grand-duc Michel renoncera le jour même. Et va éclater encore davantage l'euphorie pendant les moments qui suivent. Ici, nous avons un témoignage, toujours dans la série d'enregistrement de 67, d'un membre du Parti socialiste révolutionnaire qui s'appelle Serge Jabat.
Il faut se rendre compte de l'état d'euphorie de la population de Petrograd le premier jour de cette révolution. Tout le monde se sentait le cœur ouvert et les bras ouverts envers tout le monde. On s'embrassait dans les rues, les régiments passaient, les orchestres jouaient la Marseillaise. On s'adressait dans la rue, les inconnus parlaient, échangeaient ses expressions. Il y avait une expression d'une joie profonde et de l'espérance, comme il semblait invincible, qui rayonnait dans les regards, dans les visages. Il faut être présent pour comprendre ce que c'était ces journées inoubliables, parfois par-ci, par-là. On entendait les paroles de la haine, de la rancune, de la méfiance. C'était la propagande bolcheviste qui commençait déjà. Mais il faut dire aussi que ce premier temps, le bolcheviste ne ressemblait pas du tout aux bolchevistes qu'ils sont devenus après l'arrivée de Lénine.
Jabat, il retient la ferveur. Et vous, vous retenez deux fêtes, Nicolas Werth, dont on a peut-être oublié le souvenir. Celle du 23 mars et celle, plus étonnante encore, du 2 avril, que dans le numéro de l'Histoire, raconte Boris Kolonitsky. Alors d'abord le 23 mars.
Oui, c'est au fond l'enterrement de toutes les victimes de la révolution de février, en grande pompe, les martyrs de la révolution. Environ 1000, un peu plus de 1000 personnes sont mortes pendant ces événements. Et ça a été un grand moment de ferveur populaire, la fête de la fédération, avec cette idée donc de cette grande union nationale. Le 2 avril, c'est Pâques, et comme le montre le plus grand historien russe d'aujourd'hui de cette période, Boris Kolonitsky, il montre bien que nombre de Russes voyaient dans cette révolution une extraordinaire résurrection, au fond, de la Russie. Comme disait l'écrivain Merezhkovski, la révolution est l'acte le plus chrétien de l'histoire de l'humanité depuis les premiers martyrs chrétiens. Donc cette idée que la Russie va vraiment ressusciter, et Boris Kolonitsky montre ses extraordinaires livrets et ses affiches où l'on voit à la fois, on dit le Christ est ressuscité, c'est ce que l'on dit à Pâques, non, surtout à Pâques orthodoxe, et on voit donc un œuf de Pâques que tiennent deux soldats avec ce symbole que c'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour la Russie. On mettait des petites banderoles rouges sur les icônes dans les églises pour montrer cette symbiose et cette grande espérance issue de cette révolution de février.
Un miracle en somme. Dernier témoignage, celui de Natalia Gurfinkel.
Là surgit ce très beau mot « camarade » qu'on appliquait à n'importe qui. On voulait acheter des pommes, on disait « camarade marchand, donnez-moi des pommes pour 2 copecks » ou « camarade gardien » ou n'importe quoi. « Tavarish », n'est-ce pas ? Et là seulement nous perçûmes les premiers sons discordants. J'habitais un 6e étage et face à moi, il y avait une toute petite église. Et tout en haut, dans le clocher, c'était caché 2 policiers travestis en femmes. Et j'ai assisté à ce spectacle affreux Je n'avais aucune sympathie pour eux, bien sûr, mais on les cerna et on les jeta du haut du clocher. Et ça, c'était affreux, et ces taches roses sur la neige étaient restées pendant plusieurs jours, et chaque fois, on détournait les yeux.
Les armes de l'arsenal que vous évoquiez, qui avaient été confisquées par le peuple en révolte, armes des milices de quartier, il y a des comités de quartier. Il y a les soviets, parce qu'il y en a 700 à la fin du mois de mars, il n'y a pas seulement celui de Petrograd. Et puis il y a de partout des initiatives qui remontent, dont Marc Ferraud parle souvent. Il a retrouvé dans des sacs jamais ouverts les télégrammes, tous les textes qui étaient l'équivalent des cahiers de doléances et qui venaient de toutes les Russies.
Oui, c'est un moment de libération de la parole. Si vous voulez, dans les assemblées villageoises, dans les comités de soldats qui se créent à ce moment-là, très important, dans les comités d'usines, la première chose que l'on fait, on rédige des pétitions, des motions, où l'on demande à la fois le suffrage universel pour élire une assemblée constituante, que la Russie devienne une république démocratique, mais aussi de manière plus prosaïque, des augmentations de salaire, des augmentations de la solde, une diminution de la journée de travail à 8 heures. Pour les paysans, évidemment, le grand espoir de la distribution des terres, de la noblesse, etc., etc.
Et puis un peu de dignité aussi.
Et aussi de la dignité, bien sûr, la fin des fouilles corporelles à l'entrée des usines, les serveurs de café qui demandent la fin des pourboires parce que les pourboires, c'est humiliant pour eux. Et donc, c'est une formidable, vraiment, libération de la parole qu'on avait déjà un petit peu entrevue en 1905, mais ici sur une échelle encore plus grande.
Alors on est en suspens, on va rester au début du mois d'avril, il y a Pâques, et puis c'est le jour où Lénine rentre par le fameux train plombé dont le parcours a été assuré par les Allemands en Russie. Les bolcheviks, ils sont 10 000, 20 000 peut-être au mois d'avril, ils ne sont pas majoritaires dans le Parti social-démocrate. Le suspens, il concerne aussi la guerre. Où est-ce qu'on en est en mars-avril?
Alors, la guerre est vraiment au cœur du débat politique. Alors, en mars-avril, déjà, les états-majors allemands et austro-hongrois ont compris une chose. Ils se sont dit, on va faire une pause dans les attaques parce que, avec la création de ces comités de soldats où l'armée devient un grand meeting, ils ont compris qu'il faut donner une chance à la décomposition de l'intérieur de l'armée, c'est pas la peine d'attaquer. Et les opérations militaires se ralentissent considérablement au printemps de 1917 sur le front de l'Est. C'est un calcul délibéré des états-majors, des puissances centrales.
On en reste, Nicolas Werth, à ce moment de bascule. On peut dire que le livre que vous sortez, c'est pas le premier sur les révolutions russes, n'est pas gros. Mais il est très très dense, très utile, c'est un que sais-je, aux presses universitaires de France. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, avec à la technique Kevin Pelot et notre réalisatrice, Lise Combe, ayant déclaré pendant la période de préparation qu'elle préférait encore davantage à la Marseillaise française, la Marseillaise des travailleurs en russe. On finit avec elle. Отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский.